perspectives, jeux de citations de l'histoire de l'art. L'exposition, centrée sur les 25 dernières années passées dans le Yorkshire ou en Normandie, prouve la jeunesse de ce grand monsieur de près de 88 ans. L'exposition David Hockney 25 a lieu à la Fondation Louis Vuitton jusqu'au 1er septembre et retrouvez nos coups de cœur en images commentées sur connaissancesdesarts.com, rubrique Arts et Expositions.
Retrouvez toute l'actualité culturelle dans le magazine Connaissance des Arts, disponible chaque mois chez votre marchand de journaux.
Radio Classique.
Commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette discussion hebdomadaire qui va porter naturellement sur les suites de l'actualité internationale, essentiellement dominée par les faits et gestes de Donald Trump, mais pas seulement. Nous avons aujourd'hui avec nous Gilles Andréani, bonjour.
Bonjour.
Gilles Andréani qui est toujours professeur associé à Sciences Po et qui participe assez régulièrement à la revue Commentaires, donc connaît bien Jean-Claude Casanova. Et aussi le site Telos, qui publie de longues analyses et souvent passionnantes sur la situation internationale. Alors, il y a mille sujets, évidemment. Le dernier en date étant celui des droits de douane, de l'avancée, puis du recul momentané de Donald Trump sur les droits de douane. Ce qui est intéressant, c'est évidemment les conséquences sur l'équilibre, sur le déséquilibre mondial. Mais peut-être une première remarque avant toute chose, Gilles Andréani, toute cette actualité qui la nôtre aujourd'hui et qui est encore une fois dominée par la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump contre le reste du monde. Il me semble que ça fait passer vraiment au second plan ce qui est peut-être plus urgent pour les Européens, c'est-à-dire la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine et les avancées régulières de l'armée russe et le fait que désormais, il me semble que compte tenu de ce qui se passe et de l'attitude de Donald Trump, Vladimir Poutine a les mains libres. Non seulement plus personne n'en parle, mais lui continue d'avancer son projet et d'avancer ses pions, finalement. Gilles Andréani.
Oui, non, vous avez raison. Je crois qu'il faut, revenir à Poutine via Trump. Parce que Trump s'est avéré un formidable démultiplicateur pour Poutine. Le lâchage de Zelensky, la façon dont il revendique une complicité active avec Poutine, cette négociation qu'il a engagée, qui me paraît, on pourrait en discuter, mais qui me paraît très biaisée en faveur des Russes, tout ça démultiplie le problème Poutine et le problème ukrainien pour les Européens.
Alors ce qui n'est plus à l'agenda, semble-t-il, c'est de régler le problème en 48 heures.
Oui, ça c'est tout à fait clair et c'est pas l'intention des Russes. Les Russes choisissent de jouer la montre, c'est tout à fait clair. Poutine ne veut pas de la paix, il veut pas de la paix maintenant. Il a multiplié les préconditions les plus excessives, qui sont d'ailleurs les mêmes que celles qu'il avait énoncées dès 2022. Donc ça ne change pas. Il veut la dénazification, la démilitarisation de l'Ukraine et comme préalable à tout accord, la fin des sanctions occidentales et la reconnaissance du nouveau statu quo territorial. Donc si vous voulez, c'est quelqu'un qui refuse de négocier auquel on a affaire, mais Trump lui pardonne. Pardonne pas à Zelensky quand il refuse de se plier à sa volonté, mais très clairement, il pardonne à Poutine pour l'instant. C'est pour ça que je dis que cette négociation est outrageusement biaisée.
Jean-Claude.
Oui, ça va donc, tout va dépendre de l'évolution de Trump, parce que ce qui devrait soutenir Zelensky et l'Ukraine, c'est une révolte d'une partie de l'opinion américaine sur, au fond, la politique de Trump qui laisse les mains libres à Poutine. C'est le seul espoir qui reste, et que Trump, un peu vexé peut-être par les réticences évidentes de Moscou, ou l'impossibilité de satisfaire Moscou, parce que ça serait mauvais pour lui dans l'opinion américaine et dans l'opinion occidentale, que Trump résiste un peu plus. Ce sont les seuls espoirs qui restent.
Oui, avec l'attitude,
Gilles Andréani.
Avec l'attitude des Européens. Disons, il y a une déconnexion entre les sentiments profonds de l'opinion américaine et la capacité de faire valoir les, disons, l'équité la plus élémentaire dans cette affaire au niveau politique. Vous regardez les sondages, Telos les a publiés, les sondages américains sur l'Ukraine, ils sont pas très éloignés de ceux des Européens en termes de qui est l'agresseur, la sympathie. Personne, les Américains ne sont très minoritaires à embrasser les thèses de Trump, c'est-à-dire c'est Zelensky qui est responsable de la guerre, il ne faut pas arrêter la guerre, etc., etc. Donc, une opinion très proche de celle des Européens, à une exception près, l'aide à l'Ukraine. Ils sont 50-50 à peu près sur l'idée d'aider l'Ukraine, donc c'est pas très bon pour l'Ukraine. Et dernier point, la tétanisation de l'opposition politique font que ces sentiments ne se traduisent pas par des prises de position efficaces en faveur de l'Ukraine aujourd'hui aux États-Unis. Alors ça peut changer, mais pour l'instant c'est pas le cas.
Le seul argument de Trump qui marche dans l'opinion américaine, c'est le coût financier pour les États-Unis de sa politique extérieure, de la présence des troupes américaines à l'étranger, et ça coûte de l'argent, et là-dessus, l'opinion américaine a le sentiment qu'il faut être économe. Mais sinon, ils sont partisans. Mais si les États-Unis maintiennent l'intelligence et les capacités d'observation des Russes, ils en maintiennent le libre accès aux Ukrainiens, et s'ils laissent les armes continuer d'arriver à l'Ukraine, l'Europe peut petit à petit essayer de suppléer l'appui américain aux Ukrainiens. Mais ça sera difficile parce que l'Europe sera elle-même divisée et elle n'a pas nécessairement les éléments militaire, enfin les armements nécessaires aux Ukrainiens.
Aujourd'hui, tout semble fait quand même pour retirer progressivement l'aide américaine à l'Ukraine, à commencer par le renseignement, c'est-à-dire la capacité à se défendre de facto, Gilles Andréani.
Alors, ils l'ont rétabli. L'épisode de Koursk est très troublant. Je ne peux pas m'empêcher de penser que les Américains ont fait pression sur les Ukrainiens au moment de l'affaire de Koursk. Naturellement, ça coïncide avec le moment où ils ont suspendu l'aide et suspendu le renseignement. Je peux pas m'empêcher de penser que ça les arrangeait que les Ukrainiens évacuent Koursk, parce que Poutine avait dit quoi qu'il arrive, il y aura aucune négociation tant que le territoire russe sera occupé. Pour le scénario à craindre, c'est le scénario coréen. Vous vous souvenez, dans son premier mandat, oui, il était allé flamberge au vent, oui, enfin Trump était allé négocier avec Kim Jong-un, il avait dit je vais arranger tout ça, etc. Puis il s'était lassé. Oui. Et moi, c'est ma crainte. C'est-à-dire qu'au bout de quelques mois de tergiversation russe, assez habilement menée pour ne pas se heurter frontalement à Trump, ils disent bon, je vais bien regarder cette affaire, aucun des deux ne veut la paix. Et donc j'arrête l'aide à l'Ukraine qui se débrouille, et la Russie, on maintient les sanctions. Puis voilà, il passe à autre chose. Ou même je peux essayer de lever, il pourra peut-être essayer de lever un petit peu des sanctions parce qu'il a envie de faire des affaires avec les Russes. C'est ça ma crainte, c'est l'effet de fatigue. Et ils se disent bon voilà, ça m'intéresse plus, j'arrête. Ça serait un coup très dur pour l'Ukraine, et l'Europe n'est pas en mesure de suppléer à beaucoup des capacités que leur fournissent les Américains, essentiellement d'eux, les frappes dans la profondeur et l'enseignement.
Mais en matière de sanctions, l'Europe n'est pas négligeable. Et si elle reste unie, et si elle maintient sa politique, notamment il faudra voir ce que feront les Allemands, parce qu'il y aura certainement en Allemagne une pression pour l'idée de... Il y a certainement une partie de l'Allemagne qui veut récupérer du gaz à bon marché.
Je voudrais faire une observation positif sur les Européens. Non seulement les Européens ont été unis dans la défense de l'Ukraine, ils le sont restés alors même que Trump lâchait l'Ukraine, et Trump a réussi à rapprocher à cet égard le Royaume-Uni et l'Europe. Et je crois que tant que la guerre dure, l'unité européenne résistera. C'est au moment d'un accord que l'unité européenne pourrait se défaire. Qu'est-ce qu'on garde comme sanction au-delà de l'accord? Qu'est-ce qu'on exige des Russes? Est-ce qu'on se met dans le sillage des Américains pour tout de suite réparer les choses avec les Russes? Donc il me semble que les Européens auraient tendance à tenir dans le scénario qu'on vient d'évoquer.
Oui, alors, les Russes ont mis un obstacle. Ils ont tout de suite déclaré la présence de troupes européennes en Ukraine, c'est l'équivalent de l'Ukraine dans l'OTAN.
Oui, ils ont posé une égalité. Il y a eu un projet de troupes dites d'interposition européenne, mais c'était dans le cadre d'un accord pour, oui, au fond, surveiller la ligne de front. Ça n'est plus à l'agenda pour le moment. On en parle plus trop.
Si, ça a évolué. C'est-à-dire que D'abord, ça fait plus d'un an que le président de la République, ou juste un an que le président de la République parle de troupes au sol en Ukraine. Bon, le premier projet était en effet des forces dites d'interposition pas très loin de la ligne de front. Pour ce qu'on en sait, c'est devenu des forces dites de réassurance. Donc ça serait des forces éloignées de la ligne de front, dont le président de la République a dit qu'il n'aurait pas besoin de la permission des Russes pour les déployer en Ukraine, et qui seraient là pour prévenir une reprise des hostilités après un accord. Donc, dans l'hypothèse que je viens d'évoquer, on n'a pas d'accord. Donc, il n'y a pas de troupes au sol. Ça me paraît clair. S'il y avait un accord, ne serait-ce qu'un accord de cessez-le-feu un peu durable, la question se reposerait. Alors, on peut discuter à l'infini si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Disons que pour l'instant, c'est pas une idée qui me paraît devoir s'imposer rapidement compte tenu de l'état de la négociation.
Alors, comme il y a un effet collatéral qui est à l'œuvre toujours en France, mais pas seulement en France, qui est que dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, encore une fois dominé par les allées et venues de Donald Trump, ceux qui considéraient qu'au fond la Russie n'est pas une menace vont se sentir confortés, puisque la menace russe, on n'en parle plus, elle semble s'éloigner, alors qu'on devrait la considérer comme plus réelle que jamais d'ailleurs, Gilles Andréani.
Alors c'est le sujet, je crois, qui doit nous préoccuper. Ceux qui ne croient pas à la menace russe, j'allais dire, ont dévoilé leur batterie trop tôt. Quand le président de la République a parlé il y a quelques semaines, au début mars, de la menace russe, il y a eu des gens venant essentiellement de la droite modérée qui ont dit mais c'est de l'hystérie, c'est un pouvoir affaibli qui essaye de se sauver en invoquant une soi-disant menace russe. Bon, ils sont allés trop vite en besogne, si vous voulez. Le Front National, enfin le Rassemblement National a un peu emboîté le pas à ces intervenants de droite. Ils sont allés trop vite en besogne. La menace russe reste évidente. Cette guerre en est le témoignage. Non seulement cette guerre, mais l'extraordinaire absence de flexibilité de Poutine dans la négociation. Il a dit, nous parviendrons à nos objectifs, que ce soit par la guerre ou par la négociation. Ça veut dire qu'il ne veut pas négocier, c'est aussi simple que ça.
Ça veut dire qu'il comptait sur le soutien de Trump pour arriver au succès par la négociation.
Alors, ce qui rend la menace d'autant plus actuelle, et ce qui la décuple d'une certaine façon, c'est la perspective d'un alignement Trump-Poutine. Pas d'un alignement militaire, bien sûr, mais d'un soutien politique ouvert de Trump à Poutine. Et ça, c'est vraiment très embêtant pour les Européens, bien sûr.
D'autant que la menace de Poutine et de la Russie va au-delà de l'Ukraine, parce que il y a incontestablement une pression sur les pays baltes, là où il y a une population russe. Il y a une pression sur la Pologne à cause de la zone de Königsberg, devenu Kaliningrad, où les Russes demandent une facilité d'accès, etc. Il y a les pressions sur la Roumanie, l'environnement de la Roumanie, la Moldavie, etc. Il y a au fond une revendication pressante et menaçante sur un ensemble à la frontière ouest de la Russie,
Je crois qu'il faut distinguer les zones et les degrés d'intérêt des Russes. Depuis la fin de l'Union soviétique, ils revendiquent un intérêt particulier dans ce qu'ils appellent l'étranger proche, qui est l'ex-Union soviétique. Avec des nuances selon les périodes dans la diplomatie soviétique sur est-ce que les Baltes y sont ou pas. En fait, ils sont quand même résignés au départ des Baltes assez largement. Ce que Poutine change, c'est avec l'Ukraine, disons, la doctrine change et toute la doctrine russe a changé avec Poutine. C'est qu'il revendique un droit d'intervention armée dans cette zone. Alors, je pense pas qu'on puisse dire qu'il ait une espèce de plan, vous savez, de séquentiel, de remise, de reprise en main de l'ensemble de cet espace. Mais en revanche, qu'à l'avenir, ils se permettent dans cette zone de nouvelles menaces armées ou de nouveaux coups de force, c'est pas du tout à exclure. C'est plutôt comme ça que je le verrais. Je crois pas à la menace sur la Pologne, mais en revanche, dans l'espace de l'étranger proche, il y a une capacité de nuisance très forte des Russes.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes avec Gilles Andréani qui enseigne à Sciences Po et qui écrit aussi dans commentaires, et nous commentons précisément la situation internationale. Avant d'en venir aux rapports avec la Chine, qui sont évidemment l'élément clé de la politique tarifaire de Donald Trump, juste deux autres sujets, Gilles Andréani, il me semble que une des démonstrations de la période que nous vivons est que, au fond, la Russie a vraiment utiliser la menace nucléaire dans cette situation et dans cette affaire qui explique menace nucléaire, qui explique l'attitude de Biden au fond et l'obsession qu'il y avait en Occident et qui a toujours de dire oh, attention, il faut pas qu'on aille vers une troisième guerre mondiale. Donc au fond ça permet à Vladimir Poutine d'avancer. Il suffisait d'invoquer cette menace d'ailleurs. Donc du coup on découvre que l'arme nucléaire n'est plus seulement l'arme de dissuasion telle qu'on la connaissait, mais c'est devenu une arme à l'abri de laquelle on peut avancer de façon tout à fait conventionnelle et tout à fait en détruisant, en s'agissant de Poutine, le droit international, Gilles Andréani.
Vous avez tout à fait raison et je trouve que c'est une observation qui n'a pas été assez faite. Le nucléaire a changé de sens en Europe. Pendant la guerre froide, c'était un élément stabilisateur. Il était d'ailleurs manié avec une très grande prudence de part et d'autre. On n'élevait pas le ton sur le nucléaire, on ne faisait pas de menace nucléaire pendant la guerre froide, où on l'a fait une fois à l'occasion de la crise de Cuba, Américains et Soviétiques ont eu peur, ils n'y sont jamais revenus. Or, Poutine, c'est différent. C'est le parapluie à l'abri duquel on peut se permettre d'attaquer ses voisins. Et donc ça a changé de sens en Europe. Ça nous pose un problème d'ailleurs à nous Français, parce que notre doctrine doit s'ajuster à ça. Et Poutine, il est un peu comme la France au temps de la guerre froide. C'est-à-dire que, comme il est plus faible sur le plan classique qu'il était autrefois, sur le plan conventionnel, il aime le nucléaire. Il aime le nouveau missile Kinjal, l'Oreshnik. Il déploie en 2007 des armes nucléaires précisément à Kaliningrad pour en réponse au déploiement de systèmes antimissiles américains à proximité de la Russie. En 2023, il déploie des armes nucléaires tactiques en Biélorussie pour intimider l'Occident, vous avez raison, et il manipule la menace. Et c'est extrêmement dangereux. Non pas qu'il puisse passer à l'acte, encore qu'il y a un épisode autour de la débâcle russe à Kherson à l'été 2022, où on se demande s'il n'y a pas eu une vague tentation russe si la débâcle se poursuivait de recourir au nucléaire. Il y a eu des mises en garde, en tout cas américaines et chinoises à cette époque. Mais il brandit le nucléaire. Et ça, c'est vraiment très... Bon, c'est un des éléments qui contribue à faire de Poutine une menace, bien sûr.
Qui ont permis de neutraliser Biden, d'ailleurs, Jean-Claude.
Parce que l'hypothèse que certains envisagent, c'est-à-dire d'un retrait américain complet, renforcerait considérablement la capacité de menace de Poutine. Parce qu'actuellement, malgré tout, la présence nucléaire sous diverses formes des États-Unis en Europe et dans l'OTAN est une garantie pour l'Europe. Et s'il y avait un retrait complet des Américains, l'Europe elle éprouve déjà d'ailleurs actuellement un sentiment de désarmement futur s'il y avait conjonction au fond de la politique de Trump et de la politique de Poutine.
En attendant, juste avant d'en arriver à la Chine, Trump lui aussi joue avec les frontières parce qu'il se préoccupe beaucoup du Groenland. Et donc, il essaie d'agréger le Groenland. Ce qui est surprenant d'ailleurs, c'est que malgré cette offensive en règle et visible, et même visible à travers la personne du vice-président américain qui est envoyé sur place, les Danois, qui sont normalement la tutelle du Groenland, ne mettent pas fin au contrat d'armes qu'ils ont passé avec les États-Unis et qui n'est pas encore exécuté. Donc, ils auraient pu jouer un petit peu de cela, mais pas du tout. Ils restent de fidèles clients des États-Unis. Ce qu'on peut comprendre par ailleurs, mais ça n'empêche pas que Trump va avancer et continuer d'avancer au Groenland. Gilles Andréani.
Oui, alors on est avec Trump dans un univers qui a des points communs avec celui de Poutine. On pourrait en discuter. Le rôle, la plutocratie, le rôle des oligarques, le pouvoir personnel, etc. Il y a des points communs. Ces deux-là ont des attaches. Enfin, ils se ressemblent par certains côtés. Mais chez Trump, la triple revendication sur le Panama, enfin la zone du canal, le Groenland et le Canada est complètement excentrique, enfin est extravagante. Et d'autant plus extravagante dans le cas du Groenland qu'en réalité, les Américains font déjà ce qu'ils veulent au Groenland. Oui. Ils ont une base, ils en avaient plusieurs au lendemain de la guerre froide. C'est eux qui les ont fermés. Ils accusent maintenant les Danois de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour défendre le Groenland, mais c'est eux qui sont partis. Il y a un traité de 51 entre le Danemark et les États-Unis qui leur permet d'y faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Donc en fait, sur le plan de la sécurité, ils ont déjà le Groenland. Donc c'est complètement incompréhensible, si vous voulez. Et on voit très bien que si demain, ils demandaient à nouveau des bases ou même des facilités minières, que sais-je, les Danois discuteraient. Je ne dis pas qu'ils diraient oui tout de suite, mais enfin, ils discuteraient. Donc, c'est totalement mystérieux. Ça défie la raison, la revendication sur le Groenland. Ils l'ont déjà, si vous voulez. On ne comprend pas.
À moins qu'il ait simplement un petit intérêt financier qui veuille faire payer un peu plus cher en Europe aux Allemands, par exemple, la présence des troupes américaines.
Bon, ils veulent le contrôle des terres rares. Enfin, c'est toujours le grand combat d'aujourd'hui, c'est quand même tout ce qui est sous terre et tout ce qui est exploitable. C'est un des points de rivalité avec la Chine qui en est dotée et surdotée. Et qui participe des avancées chinoises en matière de haute technologie, Gilles Andréani.
Comme beaucoup de populistes, c'est un peu nostalgique, Trump. Il parle de McKinley, dont je ne sais pas s'il connaissait vraiment l'existence avant qu'il en parle, ou qu'on lui en fasse parler, qui est le président américain à la fois de la protection douanière et de l'expansion impériale. Donc, je pense qu'il... vous savez ça mieux que moi, Jean-Claude, c'est vous qui êtes économiste et pas moi, mais le décollage économique américain, la formidable croissance américaine, c'est l'espace et les matières premières, plus l'immigration au 19e siècle. Bon. Et il veut de l'espace. C'est peut-être dans l'ADN de Trump, il veut de l'espace et des matières premières. Je crois qu'il s'exagère beaucoup ce qu'il peut en attendre, et surtout la faisabilité de ses différents projets. Mais regardez l'accord sur les ressources minières de l'Ukraine.
Absolument.
C'est tout à fait la même chose.
Alors, comment regardez-vous aujourd'hui l'affrontement Chine-États-Unis, puisque là, il a engagé le fer à un niveau assez élevé en matière commerciale, provoquant une riposte chinoise. Les Chinois qui, d'ailleurs, dans cette affaire, paraissent plus raisonnables presque que les États-Unis de Donald Trump, en ayant des réactions, certes, de riposte, mais toujours dans un discours modéré, avec un président Xi Jinping qui passe pour aujourd'hui pour le meilleur défenseur de l'économie de marché et du libéralisme économique.
Si vous voulez, s'il y a une rationalité, ce qui est quand même extrêmement douteux dans les diverses initiatives de politique étrangère de Trump, c'est la Chine. C'est le seul sujet sérieux qui a une apparence de rationalité stratégique. Lâcher l'Ukraine n'a aucun sens. Cette idée de retournement des Russes contre les Chinois, qui serait derrière le changement d'attitude américain sur l'Ukraine, tout ça, à mon avis, n'a absolument aucun sens. C'est la rivalité avec la Chine qui est première, qui est centrale dans l'esprit des Américains. Là, de ce point de vue, Trump n'est pas le premier. Ça dure depuis Bush le jeune, depuis la fin de la guerre froide d'une certaine façon. Donc ils ont cette obsession. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que Trump ne s'y prend pas très bien. Si on veut gérer la montée de la Chine, il faut faire ce qu'on a fait avec l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'il faut faire... il faut avoir une double action de négociations et de containment. Il faut avoir des alliances, des capacités militaires de résister à un éventuel coup de force chinois. C'est ce qu'organisent les Américains. Et puis, il faut en même temps discuter avec eux et leur faire une place. Ces droits de douane sont, compte tenu de l'intrication des économies américaines et chinoises, ont absolument aucun sens. C'est un jeu à somme négative, tout le monde va perdre. Et d'autre part, c'est là qu'on voit que les leaders autoritaires sont toujours eux-mêmes leurs pires ennemis, c'est que la Chine a dans ce contexte une opportunité historique extraordinaire. C'est-à-dire qu'il pourrait apparaître, s'il se débrouillait bien, comme une puissance calme, une puissance d'ordre, une puissance rassurante, qui reprend à son compte, ce qu'a au fond été le succès historique de la politique américaine depuis 1945, une puissance qui, disons, est garante du bon fonctionnement du système international. Les Chinois pouvaient reprendre ce rôle. Or, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des manœuvres à Taïwan, ils font des droits de douane symétriques, qui sont quand même beaucoup, dans les 24 heures, qui sont moins habiles et moins intelligents économiquement et politiquement que la riposte européenne, qui est quand même beaucoup plus circonstanciée, qui est plus modérée. Moi, je prie pour que les Chinois comprennent qu'ils ont un rôle extrême. Ils ont une chance. Ils peuvent apparaître comme une puissance d'ordre dans un contexte où le désordre est américain aujourd'hui dans le système mondial.
Et parallèlement, les États-Unis pourraient avoir une... Au fond, Trump ne veut pas que les États-Unis profitent de la mondialisation et de leur extraordinaire croissance économique et de leur capacité d'exportation pour devenir dangereux politiquement. Donc... comme vous le disiez, il suffit pas d'empêcher d'interdire leur expansion économique, mais de faire en sorte que leur expansion économique ne se transforme pas en impérialisme politique autour d'eux. Et il y a d'autres moyens que ceux qu'utilise Trump pour le faire, et les moyens qu'il utilise risquent d'aboutir au résultat inverse qu'il recherche.
Parce que ça pénalise, à commencer par le consommateur américain. Enfin, ça, tout le monde le reconnaît aujourd'hui, compte tenu de la masse des produits chinois qui étaient bon marché, qui ne vont cesser de l'être, importés par les États-Unis.
Oui, il a intérêt. Par exemple, prenons la production d'automobiles. L'usine qui assemble les pièces d'automobiles doit être près des consommateurs. Donc il est logique que les usines qui fabriquent des automobiles soient près des deux grands marchés de consommateurs que nous connaissons, l'Europe et les États-Unis. En revanche, la production des pièces, qui ne coûte presque rien au point de vue du transport, doit être là où le coût de production est le plus bas. Et donc, il faut pas tuer l'échange, si vous voulez. Simplement, il faut éviter que l'échange devienne dangereux politiquement.
L'intrication des chaînes de valeur est telle. Je crois que quelqu'un a calculé que si un iPhone devait être produit intégralement aux États-Unis et cesser de se reposer sur des chaînes de valeur faisant très largement appel à la Chine et à d'autres pays asiatiques, il coûterait deux fois ce qu'il coûte aujourd'hui.
Il coûterait deux fois, trois fois plus cher. Les automobiles entièrement produites aux États-Unis seront inabordables.
En attendant, tout le monde considère aujourd'hui que l'hostilité est lancée, elle est frontale, elle va durer. Et c'est d'ailleurs amusant de voir comment Trump s'y prend, parce que dans ses déclarations et ses prestations publiques qui sont quotidiennes, il dit parlant du président Xi Jinping, mais j'aime bien le gars là, je l'aime bien, c'est un ami, etc. Mais bon, il commence toujours par cela, et d'ailleurs il incite ses homologues à faire la même chose avec lui, c'est-à-dire commencer, si on veut pouvoir discuter avec lui et l'écouter et être écouté de lui, il faut commencer par lui faire des compliments en disant mais Trump est un gars très bien, merci au président Trump d'avoir pensé à ceci ou à cela, ce qui vous donne une porte d'entrée ou une capacité à être écouté. C'est que tout ça est à la fois cocasse et triste, hein, Gilles Andréani.
Oui, c'est puéril. J'ajoute qu'il ne dit pas seulement « j'aime bien Xi Jinping », il ajoute « je crois qu'il m'aime bien ».
Oui, c'est la clé.
Oui, c'est un enfant, si vous voulez. Donc, il dit, je crois qu'il m'aime bien, donc on va pouvoir faire des choses ensemble, etc. C'est confondant, mais c'est au-delà du... de l'ironie ou de l'amusement qu'on peut ressentir de Trump, qui a un vrai talent scénique, il y a un danger absolument phénoménal quand même, parce que à l'intérieur comme à l'extérieur, ce qui domine chez lui, c'est fondamentalement le règne du rapport des forces, non seulement l'indifférence, mais l'hostilité positive aux institutions et aux normes de droit. Et ça, c'est vraiment une catastrophe.
Il a refusé les résultats d'une élection, il a essayé de la détourner.
Et pourtant, il n'a pas été poursuivi au-delà de ce qui eût été raisonnable. Merci en tout cas, Gilles Andréani, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle que vous enseignez à Sciences Po, toujours, et que vous écrivez régulièrement dans la revue Commentaires. Pour ce qui nous concerne, Jean-Claude Cazaneuve et moi-même, nous vous remercions de votre attention et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.
Bonjour, c'est Elodie Fondacci. Que diriez-vous d'une nouvelle histoire pour les vacances ? Il était une fois une jeune fille appelée Blanche-Neige qui fuyait une méchante sorcière. Elle trouva refuge dans une minuscule maison habitée par
77 nains.
Découvrez Blanche-Neige et les 77 nains, la nouvelle histoire en musique d'Élodie Fondacci. Un livre de David Ekali à retrouver aux éditions Talent Haut. Disponible pour la première fois en écoute binaurale sur toutes vos plateformes habituelles.
Des frais de santé bien remboursés et pas trop chers, efficaces, la Mutuelle Saint-Martin propose des options adaptées à tous les budgets. Des remboursements sous 48 heures et un suivi en ligne. Elle se charge de résilier votre mutuelle actuelle. Fraternelle, elle répond à vos demandes par téléphone. Une adhésion sans condition d'âge ni examen médical et à partir du troisième enfant, les autres cotisations sont offertes. D'inspiration chrétienne, elle est ouverte à tous. Mutuelle Saint-Martin, efficace et fraternelle depuis 75 ans. Devis au 03 28 76 36 34 ou mutuellesaintmartin.fr.
Renault.
Tous les hybrides ne se valent pas. Choisir la motorisation Renault Full Hybrid E-Tech sans recharge, c'est choisir la technologie Full Hybrid numéro 1 des ventes en France. C'est jusqu'à 1100 km d'autonomie sans recharge et sans refaire le plein. C'est rouler jusqu'à 130 km/h en électrique et faire jusqu'à 40% d'économie de carburant. C'est une gamme complète de 7 modèles Renault Full Hybrid E-Tech, comme par exemple Clio, Symbiose, Austral ou Rafale.
En 2024, sur Stroza Data, selon version et conduite, économie versus moteur thermique, voir Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Le Parisien, aujourd'hui en France, vous invite à découvrir les plus belles randonnées de France dans son nouvel hors-série. Sentiers côtiers, chemins forestiers, itinéraires au cœur des vignes ou des montagnes, 15 parcours d'exception de 1 à 6 jours avec notre guide pratique. Les 15 plus belles randonnées de France, un hors-série Le Parisien, aujourd'hui en France, chez votre marchand de journaux.
Bonjour, c'est Ève Ruggieri. C'est un bonheur de vous retrouver pour partir ensemble vers le soleil de la Sicile. Palerme et ses palais privés, la somnambule de Bellini au Teatro Massimo et le privilège d'un dîner-concert d'exception au Palazzo Francavilla. Autant de superbes moments de musique et d'émotions partagées avec vous.
Palerme lyrique avec Ève Ruggieri, du 20 au 25 octobre. Un voyage événement avec Radio Classique et Intermed, le spécialiste du voyage culturel. Réservation au 01 40 08 50 40 ou sur intermed.com.
Aujourd'hui, Sylviane a le sentiment du devoir accompli. À 78 ans, elle vient de donner un coup de pouce financier à ses petits-enfants. Mais surtout, Sylviane a fait une donation à la Fondation Foch. Elle aide ainsi 300 médecins et chercheurs de l'hôpital Foch à combattre la maladie et soutient une médecine d'excellence au service de tous. Legs, donations, assurance vie, comme Sylviane, soutenez l'hôpital Foch. Appelez le 01 46 25 27 74 ou connectez-vous sur fondation-foch.com.
Aesio Mutuel présente.
Oh, salut Thermos, ça va? On profite de la retraite?
Ah, t'as pas idée, je passe mes journées au bain chaud.
Bah oui, t'as l'air changé, t'es beaucoup plus rouge-violet. C'est nouveau les cloques?
Mais quoi?
T'as une bonne mutuelle, rassure-moi.
Non, je t'ai dit que j'étais à la retraite. Pourquoi?
Non, pour rien.
Ne pas avoir de mutuelle quand on est à la retraite, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, c'est s'assurer d'une continuité dans sa couverture santé tout au long de sa vie. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Contactez votre conseiller dès maintenant. Renseignements sur aesio.fr.
Dans un instant, Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
Alors, where is Brian? Où est Brian? Brian in the USA. Brian était aux USA. Where is Jenny?
Ben oui, elle est où, Jenny?
Il va falloir réviser votre anglais. En ce moment, avec les essais 100% électriques Ford, tentez de gagner 5 voyages à la découverte de l'Ouest américain. Inscrivez-vous sur Ford.fr.
Ah ben, tous les coups, elle est aux États-Unis. Hey, Brian!
Ford. Jeu valable du 15 mars au 30 juin 2025. Règlements et conditions sur Ford.fr. Gratuit, sans obligation d'achat. Pensez à covoiturer.
8h30, 9h30... Femme majeure, avec Daphné Roulier, sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour poursuivre notre balade en compagnie d'Alice Sarah Hott, l'une des plus fascinantes pianistes actuelles, femme majeure à bien des égards, tant par son talent que son tempérament, forgé au carrefour de deux cultures, japonaise par sa mère et germanique par son père. Alice Sarah Hott fut très tôt frappée par la grâce. À 3 ans, très précisément, au sortir d'un récital de piano où ses parents l'avaient emmenée, faute de babysitter, elle déclara vouloir devenir pianiste. Elle tint parole. Précoce, surdouée, abonnée au premier prix de piano, Deutsche Grammophon la remarqua et lui signa un contrat d'exclusivité dès 2008, alors qu'elle n'avait pas encore 20 ans, pour enregistrer un premier disque et, quel disque, les redoutables études d'exécution transcendante de Liszt. Singulière à plus d'un titre, Alice Sarah Hott joue pieds nus. S'il arrive que certaines interprètes ou instrumentistes à cordes, comme par exemple la violoniste Patricia Kopaczynskaya, se produisent pieds nus, c'est beaucoup plus rare chez les pianistes, tous sexes confondus. Un jour en Allemagne, j'ai joué sur un instrument historique, sur lequel Liszt en personne avait joué, se souvient-elle. À cette époque, je portais toujours des talons hauts, et je n'arrivais pas à glisser mes genoux sous le piano. C'était trop bas. Les gens étaient beaucoup plus petits à l'époque. Il a donc fallu que je me déchausse pour jouer. Comme j'étais en robe longue, je me suis dit que personne ne le remarquerait. Et puis c'est tellement plus confortable. Chez moi, je vis pieds nus. Je m'entraîne, assise toujours en tailleur sur le tabouret du piano, car j'estime qu'il faut pouvoir tout jouer avec ses mains et n'utiliser les pédales que plus tard, juste pour les couleurs. Je m'entraîne donc en tailleur, pieds nus. Je suppose que cette habitude me vient aussi du Japon, où l'on a coutume de retirer ses chaussures dès que l'on entre chez quelqu'un. Et puis vous savez, sur scène, il fait chaud. Alors, les pédales froides sous les pieds, c'est très agréable. Et de conclure en riant, je voyage léger maintenant. Des couleurs, Alice Sarraut en met particulièrement et subtilement lorsqu'elle aborde l'univers de Grieg. Nous sommes loin de l'extravagance de Liszt, mais il y a chez lui une simplicité d'une beauté qui me bouleverse, souffle-t-elle. Au point d'enregistrer son fameux concerto, des pièces lyriques, mais aussi des pages de sa musique de scène pour le drame d'Ibsen, Peer Gynt, dans des versions pour piano seul du compositeur lui-même. En voici deux. Thank you. Edvard Grieg deux passages de sa musique de scène, Peer Gynt, arrangée pour piano par le compositeur lui-même, la chanson de Solveig, et dans le repère du roi de la montagne, qui vous a peut-être rappelé le thème obsédant du film M le maudit. Loin de l'expressionnisme sombre de Fritz Lang, Alice Sarrott a joliment baptisé son disque, dédié à Grieg, Wonderland, une allusion explicite à l'onirisme de Lewis Carroll. Elle considère d'ailleurs cet enregistrement de 2016 comme son voyage personnel au pays des merveilles de Grieg. Nous aurons l'occasion de nous y attarder, mais revenons à Liszt. C'est en novembre 2009, à 21 ans, qu'Alice Sarrott enregistrait son premier concerto avec le maestro Thomas Engelbrock, grand admirateur du compositeur hongrois. Comme lui, elle balait le reproche adressé à Liszt de ne rechercher que la virtuosité, le brio. Elle estime au contraire qu'au-delà de la pure technique, sa mission d'interprète est justement de transmettre à l'auditeur les vérités qui se cachent entre les notes, dans les passages lyriques notamment, ces merveilleux dialogues entre piano et cordes ou piano et vent. Elle admire la maturité de la forme à laquelle Liszt est parvenu dans ce concerto qu'il a mis 8 ans à composer. Après son début majestueux et son deuxième mouvement, que j'associe à un nocturne lyrique, l'allegretto me donne l'impression d'un bal masqué durant le carnaval. Tout le monde porte un masque, personne ne montre son vrai visage.
Thank you.
Franz Liszt, concerto pour piano et orchestre numéro 1 en mi bémol majeur, interprété en novembre 2009 par Lisa Roth en soliste et le Philharmonique de Munich, placé sous la direction de Thomas Engelbrock. Trois mois auparavant, Lisa Roth avait choisi pour son deuxième disque, toujours chez Deutsche Grammophon, l'intégrale des valses de Chopin, ce qui, d'après un critique des Nouvelles de Lübeck, correspondait parfaitement à sa sensibilité et à sa phénoménale expressivité. Elle ne s'en cache pas d'ailleurs. Je me sens profondément attachée aux valses de Chopin. Elles reflètent parfaitement sa carrière de compositeur, sa personnalité déchirée entre la Pologne et la France, et son éternelle quête d'identité. Je me sens moi-même tiraillée entre le Japon et l'Allemagne. C'est seulement dans la musique que je me sens vraiment chez moi. Un peu de patience, juste une pause, et vous entendrez Lisa Roth interpréter trois des valses de Frédéric Chopin.
Cyrus Erez, gestion de fortune, orchestre votre patrimoine en toute harmonie. Grâce à notre approche en architecture ouverte, votre patrimoine devient une œuvre qui allie sérénité, performance et héritage familial. Ensemble, composons une symphonie patrimoniale qui résonnera aujourd'hui et demain. Cyrus Erez, la gestion de fortune depuis 1989.
Renault.
Tous les hybrides ne se valent pas. Renault Full Hybrid E-Tech sans recharge, c'est la technologie full hybride numéro 1 en France. Avec jusqu'à 1100 km d'autonomie sans recharge et sans refaire le plein. Comme par exemple Renault Symbiose Full Hybrid des 320 euros par mois. 2 mois de loyer offert.
En 2024, source 3A Data, selon version et conduite. Symbiose Evolution Full Hybrid 145 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer 4 000 euros. Troisième et quatrième loyer offert si accordiac. Offre à particulier jusqu'au 30 avril, voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Deuxième avis ?
Chut, tu fais quoi là ?
Je consulte les astres.
Ah bon ? En plein jour ?
Non, parce que le médecin vient de me dire de me faire opérer, mais bon, j'aimerais bien avoir un deuxième avis quand même.
Et du coup, ils disent quoi les astres ?
Bah d'attendre la nuit, il paraît qu'elle porte conseil.
Bon, ben, bah, attendons.
Attendre des siècles pour obtenir un deuxième avis, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel et deuxièmeavis.fr, obtenez un deuxième avis médical en moins de 7 jours. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Depuis plus de 4 siècles, Château Lagrange crée de grands vins et des millésimes remarquables. Une vocation inscrite dans le terroir de ce domaine emblématique de Saint-Julien. Au cœur du Médoc, la propriété vous accueille pour des visites privées, verticales de millésimes à l'aveugle, dégustations à la barrique et la découverte de sa table gastronomique d'exception. Entrez dans le domaine Château Lagrange, troisième grand cru classé depuis 1855. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Devenez les convives privilégiés de soirées uniques en assistant à la Traviata ou Rigoletto de Verdi dans les salons du musée Jacquemart-André en petit comité. Vivez l'opéra de l'intérieur au plus près d'artistes qui chantent sur de grandes scènes en les suivant d'un salon à l'autre tout en admirant les chefs-d'œuvre du musée. Opéra a Palazzo, c'est la découverte d'émotions jamais ressenties. C'est l'opéra intime, autrement, au musée Jacquemart-André à Paris. Informations sur opéra-palazzo.com.
Carrefour. Avec votre club Carrefour, cagnottez 34% d'économie sur tout la Berry. Oui, 34% d'économie sur les saumons fumés, le confit de canard, les jambons ibériques. Et c'est jusqu'au 20 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive et sur votre appli Carrefour.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Selon